dimanche à vous toutes et à vous tous et bonne matinée jusqu'à midi. Et vous êtes en compagnie de Marc Menon. Bonjour Marc.
Oui, bonjour Jackie et bienvenue ce matin comme tous les dimanches matins à vous et puis à ceux qui nous font l'amitié d'être à notre écoute. Alors nous allons évoquer un personnage qui est arrivé plusieurs fois en filigrane dans les propos que nous tenions les dimanches. Et ce personnage mystique avait bien des manifestations ô combien étranges, des manifestations qui étaient pour ceux qui le connaissaient la preuve de son appartenance à Dieu. Ce personnage, il va être béatifié la semaine prochaine officiellement par le pape, c'est Padre Pio. Et nous avons invité un biographe, mais qui est plus que ça, puisqu'il a été son compagnon, un fils spirituel, au même titre d'ailleurs qu'un autre pape, Paul VI. Et ce prêtre, c'est Jean de Robert. Alors le Padre Pio, des phénomènes invraisemblables qui laissent supposer quand même effectivement que parfois il y a des phénomènes qui nous échappent, et là le croyant y voit la marque de Dieu. Alors ce que je vous propose tout de suite, parce qu'il est décédé en 1968, ce n'est pas si vieux que ça, et donc, et le père de Robert est le témoin vivant, je dirais, de cette vie du Padre Pio, eh bien il est bon d'entrer en connivence avec lui, et nous allons écouter sa voix. Timbre de voix en latin, bien évidemment, c'était lors d'une messe. Bonjour mon père.
L'Angélus, bonjour Marc, bonjour à nos auditeurs.
Alors lorsque cette voix du Padre Pio comme ça résonne dans vos oreilles, aussitôt immanquablement, vous êtes confronté au passé qui vous a lié.
Ah tout à fait, tout à fait, il m'a beaucoup marqué.
Et pourtant, au départ, ça commence mal. Alors, avant d'évoquer tous les phénomènes, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que je crois que vous utiliseriez plutôt le terme de don, hein, mais moi, je placer un tout petit peu à l'écart, je dis phénomène. Et vous nous direz après pourquoi ce ne sont pas des phénomènes. Alors, il y a la bilocation, il y a les dons de clairvoyance, il y a un parfum qui sert de message.
La fragrance, ça s'appelle la fragrance.
Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire extrêmement subtil.
Et de différentes tonalités, d'ailleurs.
Alors, il y a les stigmates. Il a été l'un des stigmatisés.
50 ans, le seul prêtre, premier seul prêtre stigmatisé de l'histoire de l'Église.
Il y a les miracles. Il a été l'auteur de plusieurs miracles.
Je connais au moins l'une des... le fameux Gemma de la Sicile, qui est aveugle, qui n'a pas de pupille, qui ne peut pas voir et qui voit.
Voilà, alors tout ça, nous allons le détailler, bien évidemment, et en rameutant vos souvenirs, mais arrêtons-nous à la première rencontre avec le Padre Pio. Alors au départ, d'abord, j'ai l'impression que vous êtes un peu sceptique quand même lorsque vous vous rendez auprès de lui.
Plus que sceptique, parce que je ne voulais pas y aller. C'était donc que j'étais étudiant à Rome à ce moment-là et je me suis trouvé donc après la première année de séminaire à revenir en vacances dans ma Savoie natale. Et puis voilà qu'un jour une dame italienne me dit « Vous connaissez Padre Pio ?» Ben je lui dis « Non, pas du tout, j'ai entendu parler de cela. » Et elle me commence à crier parce que moi qui étais à Rome, je ne connaissais pas Padre Pio. Et elle m'a donné 10 000 francs de ce moment-là pour poursuivre mon voyage jusqu'à Rome et Foggia. Pour aller voir Padre Pio, lui confier un cas de conscience particulier. Et puis, bon, très bien. Ça, c'était à la fin juin.
Alors, je pense qu'aussitôt, également, elle a essayé de vous embobiner, très entre guillemets,
oui, fait,
en énumérant tous les fameux phénomènes auxquels on faisait allusion quelques
dans
instants.
Dans un cas comme ça, moi, je prends l'imperméable.
D'accord.
Ça coulait comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Je l'écoutais parler, mais ça ne m'intéressait absolument pas. Le mois de juillet s'est passé, je n'ai pas pensé à celui-là, mais au mois d'août, il y a eu un numéro spécial du Pèlerin, l'hebdomadaire de Pèlerin, avec deux pages centrales sur Padre Pio. Et là, c'est là que j'ai appris qu'il avait le don de bilocation, le don de lire dans les consciences, le don des stigmates, et que les gens, c'est un grand confesseur, que les gens devaient attendre 3 semaines, au moins, pour se confesser à lui. J'ai commencé à paniquer, comme on dit. Hein. Et je me souviens que j'ai dit à ma brave mère, tu me vois pas quand même rester 3 semaines là, c'est pas possible. Et elle me dit comme ça, de façon évasive, non, tu arrives un soir là-bas, tu restes toute la journée du lendemain et tu repartiras le deuxième jour. Très bien, bon, j'ai pu penser à cela. Mais à mesure que ça arrivait la date de départ, donc c'était la fin septembre, je pensais souvent à cette rencontre, je ne savais pas qui j'allais rencontrer, et j'ai senti naître en moi un sentiment de peur, de panique, d'angoisse. Et ça m'étonnait beaucoup. Bon, je passe rapidement sur le voyage affreux que j'ai fait, 35 heures de train, à ce moment-là, c'était affreux. En Italie, c'était spectaculaire.
Il y avait de l'ambiance.
Oui, il y avait de l'ambiance, oui, mais j'étais dans un compartiment avec des Italiens. Vous savez, quand on voyage avec des Italiens, il faut connaître dans les 10 minutes tous les temps aboutissants, les neveux, les nièces, les grands-parents, etc. Finalement, j'étais tellement angoissé et j'assistais à la naissance en moi d'un sentiment de haine pour ce Padre Pio que je ne connaissais pas et pour tous ces Italiens crédules qui m'énervaient beaucoup. J'ai décidé, en arrivant donc près de Rome à Civitavecchia, de sortir du train et de rester à Rome, de ne pas aller à San Giovanni Rotondo. Alors, c'est passé un phénomène assez curieux. C'est que le train s'arrêtait à la gare de Roma Ostiense, au bord de la ville de Rome. Il ne rentrait pas dans la gare Termini. Donc j'ai pris congé de mes bruyants Italiens et je me suis approché de la porte du train. J'ai ouvert la porte, le portière du wagon. Et là, j'étais complètement paralysé, bloqué, avec la main gauche sur la portière, la main droite avec ma valise, un pied en l'air. Je ne pouvais plus bouger, mais paralysé complètement. Je ne pouvais même plus bouger la tête. J'ai eu peur. Le chef de gare a donc donné le signal de départ et le train est reparti. Là, j'ai eu peur finalement d'être happé, d'être tombé, etc. Et quand le train a acquis une certaine vitesse pour ne pas que je saute, alors là, voilà, il s'est passé une chose, c'est que je me suis débloqué. Je suis rentré dans le compartiment et j'ai dit aux gens, j'ai oublié que je devais descendre jusqu'à Naples. Ils m'ont regardé avec un œil un peu étonné en disant, celui-là est complètement fou. Il n'avait peut-être pas tort. Et voilà que... En arrivant à Naples, j'ai dû attendre 2 heures. J'ai décidé là de reprendre le billet pour Rome pour rentrer. J'ai regardé les horaires en faisant un peu la moyenne parce que c'était pas, ça concordait pas. On était à Naples à ce moment-là. Hein. Et je suis allé sur le quai en question. Il y avait 2 trains de chaque côté. Je suis monté dans le train de Rome. J'étais parti vers le nord, seulement au bout de quelques kilomètres, au lieu d'aller vers le nord, il a tourné vers la droite. Et au lieu de prendre le train de Rome, j'avais pris le train de Foggia.
Ah, ça c'est incroyable, c'est-à-dire que là vous y voyez immanquablement une patte.
Ah, tout à fait.
Alors est-ce que c'est la patte de Dieu pour vous Est-ce que c'est donc un appel céleste pour être confronté
Je pense que le Padre m'attirait beaucoup à ce moment-là, mais je ne le savais pas. Et là, une chose assez curieuse, c'est que dans ce train qui était donc un omnibus pour traverser toutes les Apennins, j'ai à chaque station, je me levais, j'étais seul dans mon compartiment alors que le train était bondé. Je m'adossais à la fenêtre du wagon, du compartiment, et je regardais la porte. Les gens ouvraient la porte, ne me voyaient pas, ne regardaient la banquette de gauche, la banquette de droite, et repartaient comme s'ils avaient vu du monde. Enfin, après pas mal d'aventures de ce genre, je suis arrivé donc à San Giovanni Rotondo, et dans une pluie battante, un orage épouvantable, enfin c'était quelque chose d'assez impressionnant. Finalement, il y a un mendiant qui m'a mené jusqu'à la petite église de San Giovanni Rotondo. À ce moment-là, la grande basilique n'existait pas, l'hôpital n'était qu'une carcasse encore. Et cette église était pleine de monde. On préparait la fête de Saint-François d'Assise qui se célèbre le 4 octobre.
Saint-François d'Assise, qui est le créateur de l'ordre des Capucins, ordre des Capucins auquel le Padre Pio appartient.
Voilà, parfait. Et il m'a donc conduit derrière le maître-autel de cette petite église, dans la sacristie, qui était remplie d'hommes. C'était des filles spirituelles, mais je ne le savais pas. Et à ce moment-là, voilà qu'un Capucin me dit, il dit à un Capucin, ben voilà, c'est un prêtre français qui voudrait voir Padre Pio. Et lui me dit, bon ben je vais le conduire au cœur. Alors je me souviendrai donc toujours de cette lointaine soirée donc d'octobre 55 où j'ai rencontré pour la première fois Padre Pio. J'étais donc monté dans ce couvent et je sentais en moi toujours cette haine. C'était quelque chose d'assez impressionnant, une haine pour tous ces gens, un dégoût profond.
De cette dévotion extrême.
Oui, c'est ça. Je m'étonnais moi-même de ce sentiment-là, qui n'était pas ma nature du tout. On est passé devant la cellule de Padre Pio, il m'a dit, voilà, c'est là que la cellule de Padre Pio. Il m'aurait dit que c'était la tour Eiffel, c'était la même chose. Ça ne faisait strictement rien. Finalement, je suis arrivé dans le chœur, qui était à la tribune de l'église. C'était le chœur monastique, il y avait là quelques... C'était éteint, c'était sombre, il y avait quelques capucins qui étaient là. J'ai avisé une place à droite, une place à gauche, j'ai dit, bon, je vais prendre la place de gauche. Je me suis trouvé à côté d'un capucin qui était enrhumé, qui toussait, qui crachait, qui m'énervait beaucoup. J'ai été attiré par son visage. Ben, je dis, c'est drôle, j'ai vu à qui ressemble-t-il, j'ai vu cette tête à quelque part. Jusqu'au moment où où il a passé sa main sur sa tête dans un geste qui lui était familier. Sa main était gantée. J'étais à côté par des pillots que j'avais tellement craint de rencontrer. Là, vous avez la délicate, délicieuse impression des jambes en pâté de foie. Et je me suis assis parce que je ne tenais plus debout. C'était pas possible.
Alors, on arrête juste deux secondes cette évocation pour expliquer les mitaines. Les mitaines, c'était pour cacher les stigmates.
Voilà, cacher les stigmates, voilà. Et puis, éponger un peu le sang qui coulait quand même de temps en temps. Bon. Mais j'ai regardé cet homme et j'ai surpris le Padre Pio dans sa prière. Alors j'avais compris ce que voulaient dire des mots comme recueillement, comme concentration d'esprit, comme regard d'amour sur Dieu. De temps à autre, son regard se portait sur le tabernacle qu'on voyait là en bas dans la petite église. C'était vraiment l'homme de la prière. J'ai été très étonné de voir cet homme. On est venu le chercher parce qu'il devait donner la bénédiction du Saint-Sacrement, donc de descendre dans la crypte, l'église et aller faire l'autel majeur. Et alors on m'a fait lever et puis Padre Pio s'est levé péniblement. J'ai compris qu'il souffrait. Et à ce moment-là, il y a eu comme un déclic. Je me suis mis à aimer cet homme. Lui ne disait rien, mais quand il s'est mis complètement debout, il s'est redressé parce qu'il avait les pieds blessés également. Il m'a regardé
les stigmates,
de haut en bas, deux ou trois fois. Je me suis senti vraiment mis à nu, si vous voulez. Quand passant devant moi, il m'a donné un petit coup de poing sur la poitrine, comme ça, comme un geste d'amitié. Et j'ai retrouvé, après la célébration, j'ai retrouvé Padre Pio dans le couloir qui séparait l'église et la sacristie du couvent. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, à genoux. Padre Pio est arrivé, entouré de quatre capucins qui étaient ses gardes du corps. Je me suis demandé pourquoi. J'ai compris tout de suite, parce que les gens lui sautaient dessus. Alors évidemment, c'était le pugil, hein, c'était le karaté, si vous voulez.
Ah, c'est fou, parce que là, il y a un fanatisme vulgaire, je dirais.
Oui, mais sud-italien.
D'accord.
Alors, moi, j'étais en soutane à ce moment-là, et ces gens-là étaient tous à genoux. Je me suis dit, les Français sont cartésiens. Je vais donc rester debout, Padre Pio peut être un saint, c'est quand même pas le bon Dieu. Bon, j'avais l'air un peu ridicule, bon, ça fait rien.
Surtout que vous êtes grand, hein, je le dis tout de suite, c'est physique de rugbyman. Hein.
1m88.
Voilà, d'accord. Ça tranche d'autant plus avec ceux qui étaient à genoux.
C'est vrai. Et bien voilà qu'à mesure que Padre Pio s'approchait, il me regardait un petit peu par-dessus la tête des gens, je me sentais quand même pas très à l'aise. Et quand il est arrivé à peu près à 2 mètres de moi, l'un des quatre capucins qui lui servait de protection, était celui qui m'avait conduit dans ce cœur monastique, lui a dit, père, c'est un prêtre français qui voudrait vous voir. Et le père, sans me regarder, lui répond, non, pas prêtre, séminariste seulement. Ça a été le déclic, et je me suis dit, soyons prudents, mettons-nous à genoux. Et je me suis mis à genoux, et comme s'il attendait ce geste un peu d'humilité, Padre Pio a écarté les deux capucins qui étaient à côté de lui et il est venu directement vers moi. Il m'a pris la tête dans ses deux mains, il m'a serré la tête très, très fort sur sa poitrine, sur son cœur. Il m'a imposé les mains avec force, mais j'ai senti une chose que je ne connaissais pas. J'ai enregistré ça comme une décharge électrique extraordinairement forte. J'ai su après qu'il faisait ça de temps en temps et qu'on mettait ça en parallèle avec la parole d'évangile dont on dit que Jésus, quand il imposait les mains, une vertu sortait de lui qui les guérissait tous. Hein? Alors, cette décharge électrique, j'ai enregistré ça. Et puis, il m'a pris la figure dans ses deux mains, il m'a regardé, il m'a dit, « Oh, quel voyage pénible tu as fait et long. Et tout l'enfer était avec toi. Rappelle-toi, dans le train, les démons étaient assis de chaque côté sur les banquettes. » Ah, j'ai eu l'explication
du compartiment vide.
Du compartiment vide, oui.
Le train était bondé.
Et le comportement des gens qui ouvraient et qui refermaient. Et il a dit, bien, je le verrai demain à 9h parce que j'ai beaucoup de choses à lui dire. Alors, lorsque je suis retourné à la petite pension où j'avais pris logement, et j'ai retrouvé un bon nombre des dames qui étaient là, qui étaient clientes et qui étaient donc dans cet hôtel. Je suis descendu donc à la salle à manger, j'ai pris un repas dans une table. Au bout d'un moment, j'ai appelé le patron, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a comme fleurs dans la région? Il me dit, il n'y a pas de fleurs. Je lui dis, écoutez, depuis que je suis là, je sens un parfum extraordinairement fort, qui est enivrant, tellement il est fort. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, il y a un olivier, il y a des amandiers, mais c'est tout. Il y a des cailloux, mais ça sent rien. Puis donc il me dit, mais ça y est, c'est Padre Pio. Je lui dis, mais quel rapport il y a entre ce parfum et Padre Pio? Il me dit, mais Padre Pio envoie du parfum à ceux qu'il suit. Je l'ai regardé avec des grands yeux en disant, celui-là est complètement fou, je ne comprends pas un mot de ce qu'il raconte. Quel rapport peut-il y avoir entre Padre Pio et le parfum? Je ne savais pas, je le sais maintenant, que c'est le sang qui était... qui sortait de ses stigmates, qui était parfumé comme cela, et effectivement il suivait ce qu'il voulait par ce parfum, une façon de présence réelle, si vous voulez, près de lui.
Et donc bien à distance, puisque bien à distance. Long, il n'était pas dans cet hôtel. Alors on va faire juste une pause, et puis nous allons retrouver la jeunesse de l'histoire. Donc déjà vous étiez effectivement plus que troublé, d'abord parce qu'il avait été capable de décrire votre voyage, de décrypter aussi que vous n'étiez pas prêtre mais que séminariste, et qu'enfin, eh bien, il y avait ces manifestations invraisemblables, un parfum, et qui théoriquement était un message envoyé par le Padre Pio. Comment tout cela se conclut, on va le savoir dans quelques instants.